بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dans la rubrique de la langue arabe, et plus précisément l'une des meilleures sciences de la langue arabe qui est le nahw, on a préféré aborder un peu le plan historique de la chose pour que l'un d'entre nous sache en fait qu'est-ce qui a motivé les érudits à établir des règles qu'ils devaient transmettre aux autres pour qu'ils puissent se retrouver face au texte. Et nous avons dit en réalité, ce genre de sciences sont des sciences qu'on appelle ulum al-istikrariya, c'est-à-dire c'est des sciences où on ne se trompe jamais. Parce qu'en fait, les gens n'ont rien inventé d'eux-mêmes. Ils ont trouvé les discours chez les Arabes et ils ont estimé la profondeur et ils ont établi des règles. Ça veut dire que le texte est venu avant les règles. Ils ont vu que tout le temps, le sujet est au nominatif, le complément d'objet direct est au vocatif. Et les Arabes avant ça, comme vous savez, ils parlaient une langue arabe pure et propre. Mais quand l'islam a commencé à se répandre, qu'il y a eu des mélanges avec des autres peuples non arabes, ça a quand même fragilisé la langue arabe. Et maintenant, beaucoup de gens sont venus en péninsule d'Arabie pour s'instruire de la langue arabe, pour s'instruire de l'islam, et ça a créé certains mélanges, certaines coalitions qui ont fait en sorte que des familles, n'est-ce pas, c'est-à-dire, se sont trouvées unies et on pouvait trouver quelqu'un dont le père était purement arabe, la mère non arabe. Quelqu'un dont la mère était purement arabe, le père non arabe. Quelqu'un dont les deux parents étaient des arabes. Et d'une manière ou d'une autre, ça affectait le discours. C'est à partir d'ici que... Donc, les savants viennent quand même avec des petites histoires comme ça pour qu'on essaye, hein, d'estimer les choses à leur juste valeur. Abdullah ibn Mubarak dit « Ba'ath al-Hajjaj » إلى والي البصرة أن اقتر لي عشرة ممن عندك. الحجاج بن يوسف الثقفي vous le connaissez bien, il s'est beaucoup démarqué par la rigueur et la tireur. Lorsqu'Abdul Malik ibn Marwan a pris le khalifa, vous savez que le pouvoir a besoin des gens aux mains dures. Alhamdoulilah. Les savants s'accordent tous à dire que si tu es fragile, tu n'as pas une personnalité, tu ne peux pas prendre le pouvoir. Le pouvoir a besoin de quelqu'un de fort. C'est vrai que tout seul, il ne peut rien faire, il a besoin autour de lui, des conseillers, des histoires. Mais lui-même, à la base, doit être préparé à pouvoir diriger. Quand le Prophète il a dit à ce sahabi Jalil, Abu Dhal Ghafari, qu'on ne peut pas te donner la direction. Tu n'es pas de ceux-là qui peuvent diriger. Malgré qu'ailleurs, il a dit, c'est toute une umma yom al-qiyama. Hadha rajul yamshi wahda wa yamutu wahda wa yab'athu wahda yom al-qiyama. Lakin, pour être imam, pour être leader, on a besoin, n'est-ce pas, d'un certain charisme. Et tout le monde ne l'a pas. Et c'est pourquoi dans les sciences du siyasa, un homme fragile ne peut pas prendre le pouvoir. Un homme émotionnel ne peut pas prendre le pouvoir. Le pouvoir a besoin d'un homme rude. D'une manière ou d'une autre. Pas pour qu'il fasse des injustices, mais pour qu'il puisse influencer, que son discours puisse porter. Et si par exemple un dirigeant se lève, il parle, tout le monde dit, il ne dit rien. Il ne peut pas être dirigeant à ce moment-là. C'est un peu ça. Al-Hajjaj ibn Yusuf, il était comme ça. Il était très rigoureux, très rude, à la limite très dur. Il a donc demandé au gouverneur de Basra, c'est notre grande ville en Irak, de choisir 10 personnes qui vont travailler avec lui. Fakhtar Arijalan, il a choisi des gens. Minum Kafir ibn Abi Kafir, l'un des appelés comme ça. Wakana Yakhaf Aywarat. Mais lui, il avait peur d'aller travailler avec Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui pourra peut-être lui donner une mission de faire des injustices. Lui, c'est quelqu'un de bien. Il était choisi. Mais c'est bien que Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi est quelqu'un de très rude. Et quelqu'un, quand il est très rude, c'est sûr qu'il va faire certaines injustices, volontairement ou involontairement. Alors lui ne voulait pas, n'est-ce pas, aller travailler avec Al-Hajjaj ibn Yusuf. Il dit, Rubama yastamiluhu ayazlim al-nas. Peut-être Al-Hajjaj ibn Yusuf peut se servir de lui pour causer du tort aux gens. Fahab ayakhruja min hadha. Il a donc cherché une méthode convaincante pour se débarrasser Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et il savait qu'Al-Hajjaj ibn Yusuf était très versé dans la langue arabe. Il était très jaloux de la langue arabe. Et il voulait que les gens s'expriment parfaitement en langue arabe. Alors il a compris que s'il arrive devant Al-Hajjaj ibn Yusuf et fait des fautes flagrantes, ça va énerver Al-Hajjaj et va le remercier. Al-Hajjaj ibn Yusuf, quand il arrive devant lui, fait Kafir ibn Abi Kafir, Al-Hajjaj ibn Yusuf lui dit, Ibn Man, tu es le fils de qui? Il dit, Ana ibn Abba Kafir. Alors qu'en réalité, Ibn Abi, parce que c'est le Moudaf Moudaf Lay, l'annexe est l'annexé. Ibn Abi, en réalité, dit, Ana ibn Abba Kafir. Al-Hajjaj l'a maudit, et l'a dit, rentre où tu es venu. Donc voilà la ruse qu'il a eu à pratiquer pour se débarrasser d'Al-Hajjaj. C'était quelqu'un qui n'était forcément pas arabophone comme Al-Hajjaj ibn Yusuf, mais qui connaissait quand même la règle du Moudaf Moudaf Lay. Il a voulu, n'est-ce pas, se débarrasser d'Al-Hajjaj en commettant une faute flagrante qui va affecter Al-Hajjaj. Et comme il est très jaloux de la langue arabe, il va dire, rentre où tu sors. C'était la ruse qu'il a voulu, n'est-ce pas, c'est-à-dire pratiquer. Si on ne peut pas dire Ana ibn Abba, on va dire Ana ibn Abi. Moudaf Moudaf Lay. Ça, voilà là. Kharaja ibn عبد ربه فدخل على الوليد ابن مالك رجل من أشراف قريش فقال له الوليد من ختنك من ختنك شوف عبد ابن عبد ربي شي لو عبد الملك ابن مروان et puis quelqu'un parmi les notables de Quraysh est venu et il est entré chez الوليد et lui a demandé عبد الملك ابن الوليد il est entré lui a demandé le roi l'amir, le prince, la communauté, le dirigeant a demandé à ce dernier « Man khatanaka ?» Vous savez que « khatan » en réalité, il s'agit des proches parents. Il s'agit, n'est-ce pas, c'est-à-dire des proches parents. Excusez-moi. Vous avez noté, mes frères. Si on dit « khat », si on dit « khatan »« Karabatul mar'a » En réalité, il devait poser la question de savoir « Man khatanuka ?» Quelle est ta généalogie ?« Man khatanuka ?» Mais il a dit « Man khatanaka ?» C'est-à-dire la voyelle a changé le sens. Lui, en disant « Man khatanaka ?» C'est comme s'il voulait demander qui t'a circoncié, c'est-à-dire quand tu étais petit. Vous voyez un peu. Mais quand il dit « Man khatanuka ?» Qui sont tes proches parents ? Hein ? Vous voyez, c'est-à-dire le changement de la voyelle change le sens de la question aussi. Alors, il a dit, n'est-ce pas, Fulan al-Yahoudi, c'était le Yahoud qui m'a circoncis. Le cheikh était un peu gêné. Il savait que ça, c'était parmi les gens de Quraysh. Il a dit, en réalité, la question était plutôt Man Khatanuka. Et quand il a posé la question de manière juste, il a eu aussi des réponses justes. Wa min huna. Et c'est à partir d'ici que les erreurs dans la langue se sont beaucoup répandues. Wa kanu abduna man la yalhan fulan la yalhan. Et maintenant, comptez du bout des doigts ce qui s'exprimait correctement. Parce que ce mélange, cet engrenage avec le nom arabe a fauché la langue d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous signifions souvent ici. Un enfant qui grandit dans la capitale ne peut pas maîtriser le dialecte des parents comme celui qui grandit dans la campagne. C'est connu même à l'école soulade. La plupart d'entre vous, c'est sûr que si un patriarche au village parle même dans vos langues, vous aurez besoin qu'on interprète quand même, qu'on vous donne quand même le sens de certains mots. Soit dit entre nous, c'est vrai ou c'est faux? Vous avez vu, quand les gens du Noun ont eu besoin de traduire le Coran en langue bamoun, ça c'est une très bonne initiative, mais vous savez qu'ils se sont fait aider aussi par des non-musulmans qui maîtrisaient parfaitement la langue. Ils se sont fait aider par les non-musulmans, les ancêtres qui connaissent bien la langue bamoun. Les patriarches là, dans la campagne, ils sont fait aider par eux. Parce que les gens en campagne, ils ont l'espace, c'est-à-dire ils sont dans les sources. C'est pourquoi la plupart de ceux qui grandissent dans la cité, quand ils vont en vacances, la communication est parfois compliquée avec les grands-parents. Mais par contre, le pauvre qui a grandi à côté de ceux-ci, alhamdoulilah. Donc cet engrenage a fait en sorte que les erreurs dans la langue arabe se répandent. Mais on dit quand même, « Hunaka man kana la yalhan fi jiddin wala fi hazl » Il y en avait qui ne commettaient pas des erreurs, que ce soit quand ils parlent, quand ils prononcent un discours soutenu ou quand ils racontent des choses comme ça, ils s'efforçaient à garder les racines de la langue. Vous avez compris. Parmi lesquels Al-Sha'biyu, Abdul Malik ibn Marwan, Al-Hajjaj ibn Yusuf, et il y avait aussi Al-Kirfiya. C'était des gens qui s'étaient vraiment démarqués, mais Al-Hajjaj afsahuhum. Al-Hajjaj était le plus éloquent de ceux-ci. Kana qawiyun fil logha, hatta yuskar, anna sa'ala rajulun, wa huwa min ulama'i logha. Juste ce qu'on rapporte qu'un jour Al-Hajjaj ibn Yusuf a interrogé quelqu'un qui était parmi les érudits de la langue arabe. Il lui a posé la question de savoir « Haraitani Al-Han, m'as-tu vu commettre une erreur un jour, une faute ?» Faqala lahu marratan wahida. Il dit un seul jour. Chaque fait une faute. Qala mata, quand ça ? Faqala indama karata, lorsque tu as lu le verset du Coran, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Dans suratu At-Tawbah, jusqu'à la fin, Ahabbulekum, il dit, n'est-ce pas, ça dit, il dit, alors en réalité, il fallait dire Ahabba, mais il a dit Ahabbu. Parce que regardez, le Khabar est venu après avoir cité beaucoup de choses qu'il avait oubliées, en fait. Vous voyez, vous avez le Moussad, vous avez le Khabar. Maintenant, le Khabar est venu très loin, après avoir cité 8 choses environ. Dites-y vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre commerce et tout ça sont plus aimés. Il dit Ahabbu. Alors qu'en réalité, il devait dire Ahabba. Mais comment la langue arabe est très subtile. Vous sont plus aimés qu'Allah et la lutte dans le sentier d'Allah. Attendez qu'Allah fasse descendre son ordre. La parole la plus proche de la vérité, c'est de dire Ahabba et non Ahabbu. Mais à force d'avoir eu entre les deux beaucoup de marfouat, « Inkana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa ashiratukum » Vous voyez un peu. Et c'est Mafouad, il s'est oublié, et il est aussi venu avec Ahabba, comme c'était Mafou, Ahabbu. Le savant l'a dit, c'est la seule fois que j'étais entendu commettre une erreur dans la langue arabe. À la date de Yusuf Al-Kafi, il n'était pas un enfant de cœur, c'était quelqu'un de très éloquent. Il était très fort, il maîtrisait vraiment la langue. Wa kazalika anna allahna kama la tafshi fil hadira. Et malheureusement, on a aussi commencé à constater le manque d'éloquence et de finesse dans les campagnes. Ce n'était plus seulement les grandes cités qui étaient à l'abri, qui n'étaient pas épargnées de ça, mais aussi c'est dans certains villages. Il y avait déjà, n'est-ce pas, c'est-à-dire des petites fautes qu'on décelait. C'est vrai que dans les campagnes, ça a eu un peu plus de retard. C'est dans les grandes cités que des gens ne faisaient plus vraiment bien la langue arabe. Par exemple, vous voyez, ça dit awwal lahn dakhala fil badia kana dukhul ta at-ta'nis ala al-asa qala hadhihi asati. Vous connaissez al-asa? C'est un bâton, c'est une canne. On a entendu des gens dans les campagnes dire ça c'est ma canne, au lieu de dire asa, il dit asati. Le ta qui est le signe du féminin, jamila jamilatun. Ça voilà là. As-siyaratun, ma'naou mu'annas, c'est féminin, avec le ta' ma'bouta, ça voilà. Le ta' ma'bouta, c'est le signe flagrant du féminin, l'un des signes les plus forts. C'est pourquoi vous avez des noms au féminin, mais qui sont au féminin de manière labs, mais pas de manière haqiqi. Hein? Parce que vous avez un féminin réel qui est dans le sens et dans les termes et le sens. Mais parfois, le féminin reste seulement dans le terme et non pas dans le sens, ou dans le sens et non pas dans le terme. Zeynep, c'est féminin, mais féminin dans le sens, mais non pas dans le terme, parce qu'il n'y a pas de ta marbouta. Alors que Hamza, normalement c'est un nom masculin, mais comme il a le ta marbouta,
c'est féminin dans l'expression, mais réellement, c'est un nom masculin. Vous comprenez bien? Ça se discute aussi sur le littéraire. Un mot peut être masculin dans le terme et dans le sens. Mais parfois, c'est le terme qui est masculin, mais le sens est féminin et vice-versa. Vous comprenez bien? C'est pour quand je dis Sofima, c'est féminin dans le sens et dans le terme. Mais quand je dis Hamza, c'est féminin dans le terme, mais non pas dans le sens, parce que c'est le nom d'un homme, Hamza. Mais ça porte ta marbouta comme Talha. Talha a ta marbouta. Mais c'est le nom, un nom masculin. Mais le féminin dans l'expression, parce qu'on reconnaît le féminin avec le ta marbouta, le ta rond à la fin. On appelle ça ta ou ta'nis. Pourquoi je dis Kala, Rajul? Mais je dis Kalat, Imra. C'est le ta marbouta, ça? Ou Hakaza. Avec le ta, même s'il est ouvert. Mais le signe du féminin, c'est parfois le ta ta'nis. Alors en campagne, il dit Hazi Asati. Là, on a décelé ce genre de rêve. Parce qu'en campagne, les gens sont des bergers. Alors que dans le Coran, lorsqu'Allah demande à Moussa, Womatil Kabiyamini Kaya Moussa, Kala Hiya Asaya. Il ne dit pas Asati, il dit Asaya. Atawaka Waleha, Wahushubi Ala Ranami, Waliya Fiha, Ma'aribu Okhra. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il dit c'est Makan, c'est féminin, mais ça n'a pas le cas. Ça voilà. Mais on a décelé ça dans certaines campagnes. Vous voyez, Allah nous bada à yani yatafasha fi dawlat al-abbasiyya, et dans la dynastie des Bani Abbas, la langue arabe a commencé à perdre sa force. C'est une très grande dynastie, hein? C'est une très grande dynastie. Elle est venue après la dynastie des Banu Umayya. Et vous savez que la dynastie des Banu Umayya a été dirigée par deux familles, la famille Muawiya et la famille Marwan. Trois membres de la famille Muawiya ont dirigé, Muawiya ibn Abi Sufyan, Yazid ibn Muawiya, et puis vous avez Nestor, c'est-à-dire le fils de Yazid, qui était aussi Muawiya. Voilà les trois dirigeants de la dynastie des Bani Umayya. Mais après ça, c'est la famille Marwan qui a pris le pouvoir. Abdul Malik ibn Marwan, Fulan Marwan. Même s'il y a parmi ces dirigeants, Omar ibn Abdulaziz, je ne sais pas dormir. Vous comprenez? Donc, dans la dynastie des Bani Abbas, qui est venue directement après la dynastie des Bani Umayya, et puis il faut qu'on vous apprenne vraiment comment ceux qui ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir de manière très maligne. Ils pensaient qu'ils étaient plus en droit de prendre le pouvoir parce qu'ils disaient, mais Abbas, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai. Le prophète, quand il ne vient pas pour le pouvoir, lui. Il vient sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Ils sont les gens de l'enfer vers le paradis. Le prophète ne fait pas la politique. Et c'est pourquoi les bons prédicateurs ne font pas la politique. À partir du moment où vous voyez des prédicateurs entrer dans la politique, ils ne vont pas s'en sortir dans la da'wa. Parce que c'est quelque chose qui concerne un autre groupe de gens. Vous avez pour rôle d'extirper la mécréance dans le cœur et de remplacer tout le mal dans le cœur par ce qui est propre, afin que l'homme soit reformé dans sa vie et qu'il ait un épanouissement heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Dès que vous trouvez des dirigeants qui se mêlent de la politique, ils ne vont plus sortir et ne pourront plus bien faire leur travail. Parce que ça, c'est très préoccupant et ça regarde un autre domaine. Parce que vous savez qu'en politique, il n'y a pas la religion, proprement dit. Je ne dis pas que celui qui fait la politique est mécréant, mais je dis dans la politique, de manière générale, il n'y a pas la religion. Parce que l'homme politicien, c'est l'homme des intérêts. Il est avec toi aujourd'hui, entre toi demain, s'il voit que ses intérêts ne sont plus présents. C'est pourquoi tous les conseils que les grands savants donnent aux jeunes, c'est de ne pas entrer dans la politique, de ne pas faire la politique, mais de vivre dans un état avec le souci d'apporter sa contribution pour le bon épanouissement des gens. Et les gens ne sont pas épanouis seulement dans l'économie, ils ont besoin d'un épanouissement spirituel avant que le reste, n'est-ce pas, c'est-à-dire, soit bien. Allah dit dans le Coran, « Man yatakillaha yaj'allahu makhraja » Quiconque craint Allah, Allah améliore sa condition de vie. Donc, avant d'appeler les gens au développement économique, l'insalubrité, des choses, parce qu'il faut qu'ils aient une foi correcte. C'est pourquoi, vous voyez, dans les très grandes puissances, il n'y a pas de vie. Quand vous voyez l'Europe, l'Amérique et tout ça, le taux de suicide est plus élevé là-bas. Le taux de crimes, de viols, de torture, de n'importe quoi, c'est élevé dans ces régions. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la foi. Ce n'est que la foi qui peut te permettre d'estimer certaines choses à leur juste valeur. Vous comprenez bien? À partir du moment où vous allez trouver des prédicateurs qui entrent dans des histoires, il faut leur demander de craindre Allah Azza wa Jalla.
ils ont un rôle à faire et les autres ont leur rôle à faire. On ne peut pas tout faire à la fois. Et plus on s'éloigne de ces choses, et mieux on fait notre travail dans la spiritualité. La société a besoin d'être dirigée. Et c'est pourquoi vous voyez, les musulmans sont ceux qui interdisent les soulèvements. Vous voyez un peu? On ne s'oppose pas à un régime, un pouvoir, mais on reforme le pouvoir si on peut. Vous comprenez bien? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les soulèvements et tout ça. Et quand vous avez vu les gens, ils ont désobéi à Allah, à son messager, ils sont soulevés. Vous avez vu ce qui est advenu dans les États? La Syrie, elle est où aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire que Bachar al-Assad était quelqu'un de très correct? Au moins, avant qu'on ne se soulève, les gens avaient quand même une vie. La vie avait quand même un sens. Vous pouvez sortir de chez vous, vous allez à l'école, où est le problème? Vous sortez de chez vous, vous allez au marché. La pauvre mère qui n'a pas assez d'économie, elle fait son chai au bord de la route. Et l'islam a préconisé la patience. L'islam nous a frappé des exemples. Pharaon, il avait dirigé avec une main de fer. Mais qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah l'a noyé, lui, toute son armée. Et ceux qui étaient des esclaves, et les enfants d'Israël, sont devenus les maîtres du monde. Mais au bout de la patience. C'est à cause de ça qu'il ne faut jamais que ça passe dans la tête de l'un d'entre vous, aller chercher le pouvoir. Le porte-monnaie qui est dans votre poche là, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un le prenne. Mais vous pensez que quelqu'un qui est assis au pouvoir va vous permettre de venir arracher le pouvoir? C'est impossible. C'est impossible. Ce sont ces enseignements-là que les imams et les savants ont donné aux générations antérieures. Les gens qui ont gâté tous les peuples, c'est les gens qui ont cherché le pouvoir. Depuis le temps des pieux prédécesseurs, ils ont critiqué Othman ibn Affan, ils l'ont assassiné. Ils ont planifié les choses de manière très très organisée, parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Ils sont venus voir que des gens comme vous, vous ne serez en aucun cas intéressés par la richesse, mais vous aurez le souci de la religion. Ils sont venus vous dire que les dirigeants tuent la religion. Vous comprenez bien? Alors ils ont vu que les autres qui sont dans les marchés et la sauvette et tout ça sont intéressés par l'argent. Ils sont venus dire que les dirigeants mangent tout l'argent. Pourquoi les enfants ont des immeubles dans tel endroit du monde? Pourquoi vous vivez au soleil? Ils ont su que ça s'appelle les intéressés. Ils ont su que ça s'appelle intéresser les religieux. Parce que l'homme religieux est un ascète. Il se contente de ce que le Seigneur lui donne. Il sait que toute la substance est entre les mains du Seigneur. Il la partage comme il veut. S'il a reçu un bienfait, remercie son Seigneur. S'il n'a pas patience, c'est vrai ou c'est faux? Il sait ça. Lui, il a cette éthique. Mais le gars qui vend à la sauvette, lui, il a besoin d'argent. Tara. À partir du moment où tu lui dis que le dirigeant s'assoit sur l'argent, et il ouvre les yeux, ah bon? Non, mère, ici, paf, il se soulève dans les rues. Donc, ils ont formé les gens de deux façons différentes. Et quand les gens se sont attaqués aux dirigeants, Othman ibn Affan, avant de mourir, dit, vous ne connaîtrez plus jamais la stabilité. Parce que tu vas assassiner quelqu'un au pouvoir pour dire que tu vas instaurer quelque chose. Les mêmes gens qui t'ont encouragé à le faire, c'est les mêmes gens qui vont te créer des problèmes. De toutes les façons, nous ne sommes pas dans ce discours. Mais tout ça parce qu'on voulait parler de la dynastie des Bani Abbas. Eux, pour prendre le pouvoir, ils ont été très malins. Ils venaient au pèlerinage, ils amenaient les gens dans les Khurasan, ils disaient, nous sommes de la famille du prophète, et on veut défendre le prophète, on veut amener les gens à l'amour du prophète, et Abbas est l'oncle du prophète, et tout ça. C'est vrai qu'ils ont pris plusieurs méthodes. L'un de leurs ancêtres, Abbas, il faisait 1000 rakats tous les jours. 1000 rakats. Il avait une plantation de dattes qui avait 1000 pieds de rakats, et il faisait tous les jours 2 rakats à chaque pied, donc 2000 rakats tous les jours. Il vient sur le pied de Dachil et fait 2 rakats. Il vient sur celui-ci et fait 2 rakats. Toute la plantation. Là, quand ils sont descendus avec ces stratégies, ils ont fait disparaître les Bani Umayyah. C'est resté historique. Mais c'est comme ça le monde, hein. Il y a des siècles, c'est pas l'Amérique qui avait le pouvoir, hein. C'était la Rome, la Perse. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Où est la Rome aujourd'hui? Dans le contexte apparent du pouvoir, on ne parle pas de ce qui se dit. Dans le contexte apparent du pouvoir, tout le monde se tourne vers l'Amérique. Mais les gens savent que ça aussi, c'est pas, ça n'a plus de longues jambes. La Chine s'élève. C'est comme ça le monde. Allah te donne, aujourd'hui c'est toi qui as le sourire, demain c'est quelqu'un d'autre qui a le sourire. Dans le temps des Bani Abbas, la langue arabe a commencé à perdre sa force, vous voyez un peu, et dit, « وَمِنْ هُنَا بَدَا حِرْسْ عَلَى حِفْ كَانُونَ الْعَرَبِ » C'est à partir d'ici que le souci de préserver la langue arabe a commencé à naître dans les âmes. « حَتَّ لَا تَدِيعْ فَتَتَبَّعُ كَلَامَ الْعَرَبِ » Pour que la langue arabe ne disparaisse pas, ils sont donc allés dans les villages, au fin fond du village, pour entendre les campagnards, les vieillards parler. « وَاسْتَخْلَصُوا الْقَوَعِدِ » Ils ont donc extrait des règles. وَكَتَبُوا لَنَا مَا يَتَعَلَّقْ بِالنَّحْوِ وَغَيْرُ مِنَ الْعُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ Ils ont donc écrit des livres. Ils ont rangé ces règles dans des livres, soit dans la grammaire, soit dans la morphologie. Le sarf, comme c'est le sarf, est différent du nahu. Le nahu s'intéresse à la fin des mots. Le sarf prend la dernière partie, c'est-à-dire la partie du milieu et l'origine, à biniyat al-kalim. Là, le nahu, c'est faire la fin des mots. Et c'est pourquoi on te dit que dans le sarf, tu as deux sortes de lettres, les lettres propres et les lettres malades, les lettres justes et les lettres malades. Les trois lettres malades, c'est le wa, le ya et le alif. Ça, voilà là. Les gens du tajwid, ils appellent ça huruf al-mad, mais vous, dans la langue, vous appelez huruf al-illa. Ça, voilà. Maintenant, quand une lettre, quand un mot, n'est-ce pas, ça dit, commence par une lettre malade, on lui donne un nom. Quand elle est au milieu, on donne un nom. Quand elle est à la fin, on donne un nom. Au début, c'est misal. Au milieu, c'est adjouaf. À la fin, c'est naqis. Vous voyez un peu. Maintenant, quand un mot est suivi par deux lettres malades, encore c'est un nom. C'est les gens du surf qui s'intéressent à ça. Mais les gens du nahu, il faudrait que vous donniez des bonnes terminaisons. Si quelqu'un arrive ici, il dit « Ra'et ou Rajuloun », on dit « Crée Allah ». Tu ne peux pas dire « Ra'et ou Rajuloun » parce que « Rajul » est « Maf'ouloun bihi mansoub », tu dois dire « Ra'et ou Rajulan ». Ça, voilà là. Donc le nahu a ce souci pour que l'homme s'exprime parfaitement. Comprenez-vous? C'est un peu ça, Inch'Allah, Allah Ta'ala alam. Donc, on va s'arrêter là pour...